aujourd'hui une séance particulière parce qu'elle est organisée en collaboration avec le Carré des sciences de Francesco Lobue. Donc nous essayons une séance commune pour la première fois. Ça faisait pas mal d'années que nous avions l'intention d'organiser une activité en commun. C'était l'occasion. Particulière aussi parce que ça nous a permis d'inviter un conférencier d'un peu plus loin. Et M. Ottaviani venant enseignant à Lyon, il a fait son... C'est vraiment un spécialiste de la Renaissance, ce qui n'est pas très courant. Nous en avons une autre avec Mme Isaac ici, mais... en Belgique, il y en a très peu. Monsieur Ottaviani a fait son doctorat au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours sur la notion d'individualité chez Dante. Il est pour l'instant maître de conférence à l'École normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon. Et alors, il a publié 4 livres, mais je vais vous en citer 2 qui sont plus en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Un premier qui est une traduction, un commentaire et des notes de Al-Kindi, des Radiis, la théorie des arts magiques, et publié chez Alias à Paris en 2003, et un autre chez Honoré Champion en 2004, la philosophie de la lumière chez Dante. Et aujourd'hui, il va nous parler des liens tout particuliers à la Renaissance qu'il y a entre la science et la magie, les deux s'interpénétrant souvent.
Merci. Tout d'abord, bonjour. Et puis, je voudrais remercier évidemment l'Université de Mons ainsi que Hanstack de m'avoir invité. Pour vous parler donc de la Renaissance de la magie à la science, alors un titre qu'il faut signaler d'entrée de jeu comme étant à entendre à double sens. Parce que la première idée qu'on pourrait se faire, évidemment, à partir de ce que l'on connaît ou ce que l'on entend par magie en ce début du XXIe siècle, on pourrait penser eh bien, que la Renaissance aurait progressivement évolué de la magie vers la science en laissant de côté, en quelque sorte, les pratiques magiques et se rendant compte, finalement, de, en quelque sorte, la scientificité de la science. En réalité, il faut l'entendre à deux sens. C'est-à-dire, de la magie à la science peut certes dire qu'il y a une évolution considérant qu'on laisse de côté certaines pratiques magiques, considérées comme des superstitions pour aller vers la scientificité. Mais d'un autre côté, de la magie à la science, ça veut aussi dire eh bien, que l'on tente d'intégrer la magie à la science. C'est-à-dire que la magie, débarrassée justement de sa superstition, apparaît avant tout comme une pratique opératoire qui a des résultats, et qui donc, de ce fait, eh bien, doit réussir en se donnant une méthode correcte, évidemment, en évitant les élucubrations diverses et variées de tous ceux qui se disent grands mages, eh bien, devenir une science à part entière et véritable. Donc, un statut un peu particulier de cette magie, et surtout un sens du terme de magie, de même qu'un sens du terme de science, qui ne sont pas les sens que l'on entend aujourd'hui par ces termes. En effet, il faut se replonger véritablement dans cette époque, et voir ce que peut signifier pour un homme de la Renaissance, c'est bien le terme de magie. Alors, il faut tout d'abord voir qu'évidemment, la magie peut être apparue comme quelque chose qu'il s'agit de rejeter. Alors, on dit souvent que le Moyen-Âge, les chasses aux sorcières, etc., a été l'époque durant laquelle, effectivement, on a tenté de se débarrasser de ces pratiques magiques, de la nécromancie, de tout ce qui était, en quelque sorte, eh bien, sulfureux, la magie noire, et toutes les sous-disciplines qui lui étaient rattachées. On trouve, effectivement, énormément de condamnations des pratiques magiques. On trouve aussi une classification des différents types de magie très tôt, dès les étymologies d'Isidore de Séville au VIe siècle. Et il apparaît qu'il y a une magie dangereuse, une magie qui est issue, en quelque sorte, des démons, des anges pervers qui incitent, effectivement, à modifier le réel et qui doit être condamné, doit être rejeté. Cependant, cette condamnation, en réalité, est assez limitée. Elle est assez limitée dans la mesure où elle ne touche que certaines pratiques magiques, que certains versants de la magie. Tout ce que l'on a pu regrouper, alors sous un terme un petit peu générique et qui finalement ne veut rien dire, qui est la magie noire. Mais il y a aussi la magie blanche. Et cette magie blanche est quelque chose que les renaissants vont étudier et vont chercher à comprendre. Et si l'on peut dire, ils ne sont pas forcément très originaux dans l'étude de cette magie, puisque déjà le Moyen-Âge s'était intéressé sur les différences entre les différentes pratiques magiques et sur le fait qu'il existait évidemment deux ordres principaux de cette magie. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie? Tout d'abord, l'élément le plus important est qu'elle est un art positif, un art opératoire, un art pratique, qui permet, par des expérimentations, par toute une série de pratiques sur les corps, sur la matière, mais aussi, évidemment, associée à toute une spiritualité qui va avec ces pratiques, eh bien, cette magie apparaît donc comme quelque chose qui a des effets sur le réel. Alors, cette magie qui va être en question à la Renaissance, en réalité, est surtout issue d'un héritage. Et il faut d'entrée de jeu expliquer que ce que l'on appelle généralement la Renaissance, alors, selon des frontières plus ou moins floues, c'est-à-dire savoir à quel moment commence la Renaissance, bon, évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on est renaissant alors qu'on était médiévaux la veille. Il s'agit simplement d'essayer de voir, eh bien, qu'est-ce qui renaît. Alors, ce qui renaît dans la Renaissance, sont avant tout l'ensemble des textes antiques. La philosophie classique, la philosophie aristotélicienne, mais aussi l'ensemble des textes qui faisaient partie de la culture antique. Mais en réalité, il y a une première Renaissance avant la Renaissance qu'on pourrait dater du XVe siècle. Personnellement, je préfère la dater du début du XIVe, mais enfin bon, ce sont des querelles un peu pointilleuses. Il y a une Renaissance au XIIe siècle. De quoi s'agit-il dans cette Renaissance du XIIe siècle? Replongeons-nous à l'époque et voyons ce qui se passe dans l'histoire de la pensée. Alors, on croit généralement que sous prétexte qu'Aristote est plus ancien, par exemple, que des auteurs du Xe siècle, eh bien, ces auteurs l'ont nécessairement lu. En réalité, non. Tout ce qui constituait le savoir antique, le savoir aristotélicien, mais aussi les mathématiques, la géométrie, Euclide, Ptolémée, etc., à part quelques textes aristotéliciens et quelques œuvres assez précises, eh bien, tout ça est perdu par le monde latin du Moyen-Âge. En réalité, à la chute du monde hellénistique, eh bien, la philosophie se déplace. La philosophie ne se fait plus en Occident, mais se fait à Bagdad. Tous les textes des Grecs vont être déplacés dans le monde arabe, et c'est là où vont être montés, alors notamment sous l'égide d'un calife comme Al-Mamoun, qui va monter les maisons de la sagesse, eh bien, vont être mise en place toute une série d'études sur ces textes grecs, sur les mathématiques d'Euclide, sur l'ensemble des textes d'astronomie, etc. Et les Arabes vont travailler pendant plusieurs siècles à commenter, analyser, voire même poursuivre les études des mathématiciens, astronomes et scientifiques de l'Antiquité. Pendant ce temps-là, dans le monde latin, eh bien, la science est réduite à une portion congrue. La médecine est essentiellement une diététique qu'on enseigne à l'école de Salerne, par exemple, jusqu'au XIIe siècle. On va avoir une astronomie très réduite, une astronomie qui sera limitée à l'exégèse, en quelque sorte, du texte biblique, où il y aurait trois cieux autour de la Terre, bon, une astrologie, finalement, peu portée sur l'expérience et le calcul. Alors que pendant le même temps, eh bien, le monde arabe établit de nouvelles tables astronomiques, calcule les variations des planètes par rapport aux tables qui avaient été montées par les Grecs, et surtout, eh bien, travaille également sur l'astrologie, c'est-à-dire non seulement sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'astronomie, c'est-à-dire la cinétique planétaire, la théorie du mouvement des planètes, mais à côté de cela, eh bien, vient se greffer l'astrologie, c'est-à-dire l'influence qu'ont ces planètes, avec évidemment l'exemple censé montrer la réalité de cette action des planètes, l'exemple de la Lune qui provoque des marées, bien entendu, que tout le monde connaît. Alors, pourquoi parler de cet héritage arabe? Eh bien, parce que dans le monde arabe va se mettre en place une analyse de tous ces textes anciens et se surajouter, en quelque sorte, cette analyse des textes anciens va se surajouter à une étude du monde qui est avant tout une étude métaphysique et dans laquelle, eh bien, le monde va pouvoir être considéré, eh bien, comme quelque chose, on pourrait dire, en quelque sorte magique, du moins quelque chose qui est empli d'esprit, et quelque chose dans lequel la pratique magique, en réalité, ce que l'on appelle la magie, n'est rien d'autre qu'une forme de la scientificité. Alors, lorsque les textes d'Aristote, Euclide, de tous les astronomes ou astrologues, parce qu'en réalité, très longtemps, astronomie et astrologie ne se distinguent pas du tout. C'est une seule science, qu'on appelle généralement l'astrologie. Eh bien, tous ces textes vont arriver d'un coup, enfin, en un siècle, mais bon, c'est relativement court pour absorber, en quelque sorte, un héritage aussi important que celui de toute la Renaissance arabe, qui a eu lieu beaucoup plus tôt. Tous ces textes vont arriver et vont être amenés à entrer en conflit avec les textes déjà existants dans le monde latin. On hérite donc de tout un système de pensée qui est le système grec, mais revu et modifié par toutes les analyses des philosophes arabes. Or, ces philosophes arabes, eh bien, vont profondément modifier la pensée grecque, et surtout, ils vont la rendre compatible avec le monothéisme. Alors c'est ça, à la fois, la grande richesse pour les latins qui reçoivent cette pensée arabe, c'est qu'ils ont déjà une structure de pensée aristotélicienne, platonicienne, etc., mais combinée à la pensée monothéiste, telle qu'elle a été élaborée dans l'islam. Donc, il suffit de changer un petit peu les textes et nous pourrons basculer eh bien, de l'islam à la chrétienté. On reçoit donc tout un corpus de textes qui va permettre eh bien, de fonder une nouvelle science. Une nouvelle science parce qu'évidemment, nécessairement, l'astrologie des Arabes sera beaucoup plus convaincante que les prémices astrologiques des Latins, de même que la médecine. La médecine arabe sera beaucoup plus développée que la médecine latine. Et on va donc, en quelque sorte, intégrer l'ensemble de ces sciences, mais on va les intégrer comme un tout. Alors, un auteur qui me paraît absolument fondamental, alors qui est un auteur très très peu connu, généralement pas traduit et très peu étudié, qui s'appelle Pietro d'Abano, comme la ville italienne d'Abano, A-B-A-N-O, est un philosophe qui enseigne à Paris en 1300. Alors pourquoi cet auteur est important ? Cet auteur est important parce qu'il va tenter, dans un ouvrage qui s'appelle « Le Conciliator », d'établir une grande conciliation entre la philosophie, l'astrologie et la médecine. C'est en effet un médecin, et il remarque eh bien, que dans la classification des sciences de son époque, sa discipline principale, la médecine, est très peu considérée. En effet, elle n'est pas considérée comme une science, elle est considérée comme un art opératoire, on soigne des corps. Elle a un objet qui est un objet très peu digne, le corps humain, les fluides, les glaires, etc. Donc c'est assez répugnant et assez bas. Donc c'est une science, enfin un art, qui est classé en bas, en quelque sorte, de la classification des sciences. Or, Pietro d'Abano se rend compte que la médecine de son époque a fait énormément de progrès. Et il se rend compte aussi que cette médecine ne peut être réellement efficace que si elle se fonde sur une astrologie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un bon médecin doit avant tout être un bon astrologue. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons différents problèmes, eh bien, ceux-ci peuvent s'expliquer par tout un système de configurations astrales qui nous sont défavorables. En effet, les astres influent directement sur notre corps, et si nous connaissons l'exactitude, en quelque sorte, de cette influence, si nous savons, à partir de tables astronomiques ou d'études de ces influences ou supposées influences, eh bien, si nous savons établir ce qu'elles sont, eh bien, nous pourrons les contrer. Et nous pouvons découvrir, à ce moment-là, eh bien, très simplement, que si telle plante naît sous telle configuration astrale, opposée à telle autre configuration astrale, eh bien, elle pourra peut-être soigner, disons, rééquilibrer l'influence des astres en étant absorbée en décoction, etc. Donc il y a déjà, d'entrée de jeu, dans ce lien entre une médecine qui se revendique ouvertement comme scientifique, parce que Pietro d'Abano va avoir pour objectif essentiel de faire entrer la médecine dans le corps de la science, mais une médecine eh bien, qui ne rejettera pas ce que nous appellerions magie, mais qu'il n'appellerait pas magie, qu'il appellerait science, c'est-à-dire l'astrologie. On se trouve donc avec un espèce de complexe intellectuel dans lequel, eh bien, magie et science ne sont pas... Enfin, ce qui, pour nous, relèverait de la magie ou d'une pseudo-science, comme dirait Popper, comme l'astrologie, eh bien, tout cela doit être pris, au contraire, très au sérieux et doit être intégré dans le corpus même de la science. Alors, Pietro d'Abano est très intéressant parce qu'il explique pourquoi Aristote... Alors, à l'époque, lorsque l'on parle d'Aristote, on l'appelle le philosophe. C'est-à-dire que c'est celui qui a réussi à terminer, ou du moins avancer considérablement, les grandes réflexions philosophiques. Donc il est le philosophe par excellence, et Aristote ne se trompe jamais. Donc on mettra beaucoup de temps avant d'admettre qu'Aristote ait pu se tromper, et généralement on essaye de l'interpréter et de l'excuser sur la plupart des choses. Alors Aristote disait que la médecine était un art. Or, Pietro d'Abano est un aristotélicien fervent, donc il ne peut pas remettre en question son maître, mais il va dire oui. La médecine est effectivement un art à l'époque d'Hippocrate, à l'époque d'Aristote. À l'époque, nous n'étions que dans la pratique. Nous ne connaissions pas véritablement de théorie médicale, générale, spéculative, mais l'histoire a transformé progressivement l'art en science. C'est-à-dire qu'à force de faire des pratiques, à force d'expérimenter leurs remèdes, etc., eh bien, les médecins ont élaboré des théories abstraites, des théories qui sont des théories intellectuelles, et donc, cette science, désormais, mérite bien ce titre et doit être intégrée, en quelque sorte, au corpus général des sciences. Alors, bien sûr, le Moyen-Âge n'était pas tendre avec la médecine, mais pas tellement plus avec les autres sciences, puisque l'ensemble du système scientifique était organisé, ordonné, classifié et surtout, hiérarchisé entre une science que Thomas d'Aquin appelait la science reine, la théologie, et dont les 60 autres sciences n'étaient que les servantes. Pour Pietro d'Abano, il faut remettre en question cette classification des sciences et pour cela, il va s'interroger sur la méthode que doivent employer les sciences. Et il explique que, alors que l'on classe au Moyen-Âge les sciences selon la dignité de l'objet, alors la théologie est la plus digne puisqu'elle étudie Dieu. Vient ensuite la métaphysique qui étudie le premier principe. Vient ensuite la physique qui étudie le premier moteur, la source de tous les mouvements. Et on a comme cela toute une hiérarchie de toutes ces sciences dont le but est finalement de basculer au final dans la théologie. Alors Pietro d'Abano n'est pas du tout d'accord avec cette classification et il change la définition de la méthode. Alors ce qui se révélera fondamental, on a l'impression qu'on s'écarte un petit peu de la magie, mais il nous faut d'abord établir la science pour ensuite revenir sur nos pratiques magiques. Alors Pietro va nous dire, non, une science ne peut pas se classer en fonction de la dignité de l'objet, ça n'a aucun sens, elle doit être classée en fonction de l'adéquation entre sa méthode d'investigation et l'objet qu'elle étudie. Une science qui a une bonne méthode d'analyse des objets, qui arrive véritablement à saisir son objet, alors est une science beaucoup plus digne que les autres. Et il va dire, d'ailleurs, la métaphysique n'est pas une science. Alors évidemment, à l'époque, vous imaginez ce que ce genre d'affirmation peut signifier. D'ailleurs, Pietro d'Abano n'aura pas beaucoup de sectateurs et de gens qui suivront ses théories. Enfin, elles seront déplacées dans le champ politique, mais c'est une autre histoire. Pietro d'Abano, va considérer que la métaphysique n'a jamais réussi, ne serait-ce même qu'à saisir son objet. Un objet qui ne se donne pas dans la manifestation, qui ne se donne pas dans l'expérience, n'est pas un objet. Une science qui étudie un tel objet n'est pas une science. Par contre, la médecine, a des résultats. Et à son époque, donc au XIIIe siècle, Pietro d'Abano considère que la médecine est terminée. Elle est terminée parce qu'avec lui, ont été faites les dernières découvertes de la médecine, lui permettant d'accéder définitivement au statut de science, et elle ne changera plus. À condition, de lui adjoindre cette science astrologique qui est fondamentale. Alors, ce problème est un problème qui va nous intéresser parce qu'il pose toute une série d'autres problèmes. Tout d'abord, le problème du rapport entre la théorie et la pratique, qui va nous intéresser puisque la magie sera considérée d'abord comme un art pratique, tandis que la science sera plutôt du côté théorique. Cette relation entre la médecine, la théorie et la pratique, et quelque chose qui permet à Pietro d'Abano d'affirmer que, oui, les arts pratiques ne s'élèvent pas toujours à la dignité de la spéculation, mais il y a en quelque sorte un mouvement d'aller-retour perpétuel entre la pratique et la théorie. Et à force de pratiquer certaines opérations, à force de pratiquer la médecine, on a fini par théoriser la médecine et on a fini par avoir une science qui ne porte plus sur du contingent, c'est aussi pour cela qu'on lui refusait le statut de science, parce que Aristote disait qu'il n'y a de science que du nécessaire, il n'y a pas de science du contingent, il n'y a pas de science de ce qui change perpétuellement, et donc, de ce fait, ce qui est plutôt dans le domaine du changeant relèvera de l'art, relèvera d'une pratique, tandis que ce qui s'élève à l'universel, qui permet de former des jugements qui sont valables quels que soient les cas, en tout temps et tout lieu, eh bien là, nous aurons une véritable scientificité. Alors, bien entendu, Pietro va considérer que la médecine ayant élaboré une théorie, elle a en réalité deux facettes. Il y a une médecine qui est un art. C'est la médecine pratique du médecin en tant qu'il soigne, ici et maintenant, en quelque sorte, tel ou tel individu. Nous sommes dans ce cas-là, dans quelque chose qui relève de l'art, de la pratique, ce n'est pas une science. Mais ce même médecin ne pratique que parce qu'il a une théorie des maladies, des causes et des manières de résoudre, évidemment, de soigner ces maladies. Et cet homme-là, en tant qu'il est théoricien, travaille bien sur un universel. Quel est cet universel? Eh bien, c'est le corps en tant qu'il est soignable. Donc, il y a bien quelque chose d'invariant. Le corps en tant que soignable ne dépend pas des individus, de Pierre-Paul Jacques, mais eh bien quelque chose d'universel, abstrait, que l'on peut donc étudier de manière scientifique. Donc, pour lui, en quelque sorte, eh bien, on a pour l'instant considéré la médecine que dans son versant pratique. On lui a refusé pour cette raison le statut de science, il faut donc lui donner un statut théorique. Alors, justement, ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que cette médecine va toujours de pair, évidemment, avec une astrologie. L'étude des configurations astrales fait partie intégrante de cette médecine, et le but est de faire rentrer véritablement l'astrologie dans le champ de la science, et de faire comprendre aussi eh bien, que s'il y a des pratiques plus ou moins, disons, superstitieuses de l'astrologie, il y a aussi une véritable astrologie mathématique qui, grâce à l'arrivée de tous les textes d'astronomie, astrologie de l'époque, disons, de la Renaissance arabe, eh bien, est quelque chose qui permet de calculer efficacement le mouvement des planètes, qui permet d'établir des tables astronomiques exactes. Bref, c'est une science dépendant des mathématiques et qui, véritablement, a la dignité d'une véritable science. On voit donc que, disons pour commencer en gros cette problématique, eh bien, l'astronomie et l'astrologie ne diffèrent pas véritablement, tout simplement parce qu'elles se combinent dans la mesure où nous ne sommes pas, à l'époque, dans un cosmos, un univers, qui est notre univers contemporain. Il faut bien se mettre là encore, c'est généralement ce qui rend difficile l'entrée dans ces époques lointaines, qui ne sont pas lointaines uniquement parce qu'elles sont éloignées dans le temps, mais qui sont lointaines parce qu'elles sont éloignées comme un autre univers le serait d'une autre. En effet, le monde de la Renaissance n'est pas notre univers, c'est un monde spiritualisé. C'est un monde dans lequel eh bien, les choses ont une dimension concrète, mais aussi ont une dimension spirituelle dans la mesure où l'esprit est partout. Par exemple, on considère que si les cieux sont en mouvement, si les planètes bougent, eh bien, c'est qu'il y a des moteurs. Qui sont ces moteurs des cieux? Eh bien, ce sont les intelligences, que les chrétiens appelleront les intelligences angéliques. Les anges n'étant que la plus basse division des intelligences angéliques, il y en a plein, il y a les trônes, les dominations, etc. Bon, il y a plusieurs ordres d'anges. Chaque ordre d'ange a pour rôle de mouvoir l'un des cieux. Or, ces anges sont des créatures purement spirituelles. Donc, de ce fait, l'influence des astres s'explique non pas par l'astre lui-même, qui pourrait être matériel, mais justement par les esprits qui les animent et qui influent sur l'ensemble des choses terrestres, puisque les anges sont des créatures directement, qui ont été directement créées par Dieu, qui répondent directement à ses volontés, et qui donc, de ce fait, eh bien, sont amenés à répandre l'influx divin sur la totalité du monde. Nous avons donc un monde totalement spiritualisé, dans lequel on ne peut pas faire l'économie, en quelque sorte, de la théologie, pour comprendre eh bien, ce qui se produit dans le monde, par exemple, de la physique, de l'astronomie, etc. Cependant, évidemment, on est toujours très conscient du danger que peut représenter l'astrologie, notamment dans sa version la plus dangereuse, qui est l'astrologie judiciaire, c'est-à-dire l'astrologie qui juge du bien et du mal, qui juge de la vérité et du faux concernant les individus, qui vous donne, en quelque sorte, votre si vous voulez, votre horoscope, dirons-nous, qui vous donne un petit peu vos principales caractéristiques. Alors celle-là est assez dangereuse, mais il y a aussi une astrologie mathématique qui, elle, eh bien, permet de comprendre l'ensemble de ces mouvements, qui est véritablement une science, et qui va pouvoir eh bien, être intégrée sans problème, en quelque sorte, dans le complexe théologico-philosophique qui est celui de l'époque. On reçoit cependant toute une série d'ouvrages qui, pour les Arabes, relèvent de la science, comme s'il s'agissait d'ouvrages de magie. C'est-à-dire que tout ce que les Arabes ont considéré comme étant une science n'est pas quelque chose qui sera reçu par les Latins comme quelque chose de véritablement scientifique, et on gardera ce titre de magie. Alors, Hans Taquet parlait tout à l'heure du petit ouvrage que j'ai traduit, qui n'est pas très long, qui est d'Al-Kindi, donc un des penseurs arabes extrêmement important de cette renaissance arabe. Al-Kindi, qui écrit donc un déradis, qui est, ça veut dire des rayons. Ce qui m'intéresse ici, c'est pour ça que j'ai gardé le bandeau qu'a mis mon éditeur, c'est qu'il est sous-titré « Théorie des arts magiques ». Alors moi, je l'avais supprimé dans le titre, parce qu'en réalité, Al-Kindi n'a pas mis ce sous-titre. Ce sous-titre est un sous-titre qui a été mis au XIIe siècle par les Latins, lorsqu'ils ont reçu ce texte. Al-Kindi nous explique quoi dans ce texte ? Il nous parle d'une science. Il nous parle d'une science des rayons. Alors pour lui, il faut se mettre là encore dans le contexte de l'époque, tout n'est que lumière. La Terre, l'ensemble des objets, l'ensemble des choses est composé d'une lumière extrêmement concentrée qui ne demande qu'à être libérée. Et cette lumière peut être libérée avec des pratiques qui sont des pratiques pour lui scientifiques, fondées essentiellement sur une géométrie de la lumière, une optique, parce que l'optique va aussi jouer dans ces questions. Et Al-Kindi va expliquer, par exemple, eh bien, que par des paroles magiques, on peut guérir des maladies, chasser des bêtes sauvages, etc. Tout simplement parce que, comme tout est lumière, notre parole elle-même est une lumière. Et si nous connaissons les bonnes formules, alors nous produirons des sons dont la luminosité, d'une certaine manière, entre en résonance avec les choses et les transforme. Je pourrais ainsi déplacer des objets, faire toute une série de choses que les Latins vont se dire être des choses magiques. Du coup, le sous-titre « Théorie des arts magiques », alors que pourtant dans cet ouvrage, bon, ça commence par une analyse des catégories de Porphyre, on ne peut pas dire que ce soit véritablement de la magie, vous ne trouverez rien sur des pratiques sulfureuses, etc. dans cet ouvrage, ça se présente comme un ouvrage de science aristotélicienne en quelque sorte. Alors, là est le problème essentiel de cette magie dans son rapport à la science, c'est que les frontières entre les deux sont extraordinairement obscures. Extraordinairement obscures parce que tout ne dépend finalement d'un certain nombre de points de vue sur les choses, et ce qui peut être appelé magie dans un cas ne le sera pas dans un autre cas. Alors, dès le XIIe siècle, on reste un peu beaucoup dans le Moyen-Âge, mais on va le quitter très très vite, mais néanmoins, le Moyen-Âge est vraiment le fond même de l'argumentation de la Renaissance et permet de comprendre la structure cosmique de l'univers qui a été léguée justement à cette Renaissance. Alors, Hugues de Saint-Victor écrit dans un ouvrage au XIIe siècle qui s'appelle le Didascalicon ou l'art de lire, eh bien qu'il y a, par exemple, deux astrologies. Il y a une astrologie que l'on peut appeler naturelle. Cette astrologie naturelle, elle étudie la complexion, la composition des différents corps, et celle-là peut être considérée comme relevant de la science. Par contre, il y a une astrologie superstitieuse. Celle-là prétend s'appliquer à ce qui relève du domaine du contingent et prétend s'appliquer à ce qui relève du libre arbitre de l'homme. Cette astrologie superstitieuse, évidemment, est celle qui doit être condamnée. Du coup, si le Moyen-Âge condamne bien la magie, il condamne une certaine magie, c'est-à-dire la magie qui prétend influencer les individus ou travailler sur des choses qui relèvent d'une connaissance du futur plus ou moins véritable, qui serait faite, en quelque sorte, eh bien, indépendamment des enseignements divins. Mais il y a une autre magie, cette magie qu'on appellera la magie blanche. Cette magie blanche, eh bien, va être défendue par les plus ardents représentants de l'Église. On va trouver, par exemple, quelqu'un qui est fondamental à l'époque médiévale, qui sera le maître de Thomas d'Aquin, et qui lui survivra d'ailleurs, bon, parce qu'il a vécu très vieux, ce qui est assez rare à l'époque, c'est Albert le Grand, qui deviendra Saint Albert le Grand. Albert le Grand considère eh bien, que, alors c'est un aristotélicien, il est imprégné de toute cette culture arabe, a beaucoup lu tous les Arabes et les a complètement intégrés dans le système chrétien, Et il a aussi écrit différents ouvrages, dont un qui s'appelle « Le compositum de compositis », « Le composé des composés », dans lequel il va commencer par donner une explication sur la raison pour laquelle il écrit un ouvrage, alors qui est un ouvrage d'alchimie. Puisque lorsque l'on parle de magie, outre la magie noire, la nécromancie et toutes les pratiques de sorcellerie, lorsque l'on parle de magie, il y a deux « sciences », entre guillemets, deux « arts » qui voudraient bien passer dans le champ de la science majeure qui apparaissent. C'est, bien entendu, d'une part l'astrologie, mais d'autre part l'alchimie. Et Albert Legrand va expliquer pourquoi il écrit un traité d'alchimie. Et il nous dit dans sa préface « Je ne cacherai pas qu'une science qui m'a été révélée par la grâce de Dieu, je ne la garderai pas jalousement pour moi seul, de peur d'attirer sa malédiction. Une science tenue secrète, un trésor caché, quelle est leur utilité? La science que j'ai apprise sans fiction, je vous la transmets sans regret. L'envie ébranle tout. Un homme envieux ne peut être juste devant Dieu. Toute science, toute sagesse, vient de Dieu. C'est une simple façon de parler que de dire qu'elle vient de l'Esprit-Saint. Nul ne peut dire notre Seigneur Jésus-Christ sans sous-entendre « Fils de Dieu le Père » par l'opération du Saint-Esprit. De même, cette science de vérité ne peut être séparée de celui qui me l'a communiqué. » Donc ici, il y a une autre alchimie. Il y a une alchimie blanche, une alchimie qui a été révélée directement par Dieu et qui est une alchimie qui s'inscrit dans le cadre théologique de l'époque. Et celle-ci aura le plein droit, en quelque sorte, d'accéder dans le champ de la science. Alors tel est le problème de ces rapports entre magie et science, c'est-à-dire que nous nous trouvons, au Moyen-Âge et à la Renaissance encore, dans un système du monde dans lequel la théologie n'est absolument pas remise en compte et en cause, et dans lequel l'influence de Dieu sur le monde est bien entendu un acquis et une vérité qui a été révélée. De ce fait, nous pouvons certes avoir des sciences qui étudient les causes de toutes les choses. Aristote disait qu'une véritable science est d'autant plus science qu'elle connaît mieux la cause. Donc plus je remonte dans les chaînes de causalité, et plus je réussirai à fonder cette science. Mais cette science ne peut pas être séparée de son versant, en quelque sorte, occulte. Il y a donc des choses qui ont des causes occultes, qui ont des causes, non pas inexistantes, mais des causes qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas connaître par l'expérience et qui pourtant existent réellement. L'occultation même de ces causes ne fait pas qu'elles soient fausses ou qu'elles n'existent pas. Du coup, tout le travail va être, puisque nous sommes dans le domaine de l'occultisme, de différencier les causes occultes qui proviennent d'une correcte analyse du système théologique voulant que Dieu agisse sur l'ensemble du monde. Alors, il y a de multiples théories pour savoir s'il agit nécessairement par l'intermédiaire des créatures angéliques, s'il peut agir directement lui-même, etc. Bon, on ne rentrera pas dans ces débats très importants. Donc, il y a cette magie et cette théologie liées dans la pensée des théologiens, qui est, à ce moment-là, l'œuvre des anges, l'œuvre, en quelque sorte, de ces créatures spirituelles que l'on ne voit pas, qui ne se manifestent pas, mais qui pourtant influent sur le monde. Et il y a, évidemment, leurs adversaires. Il y a les démons, ces anges déchus qui opèrent un petit peu de la même manière et qui tentent, au contraire, de nous faire dévier de la voie droite. Alors, c'est par exemple ce que l'on trouve chez Dante dans « De l'enfer au paradis », c'est-à-dire toute la traversée de l'enfer est sans cesse confrontée au risque. C'est-à-dire que Dante veut aller dans la lumière, il cherche la lumière de Dieu, mais en enfer, il y a beaucoup de petites lumières. Il y a beaucoup de petites lumières qui rayonnent de ci, de là, des petits feux qui égarent celui qui voyage. Alors évidemment, tout le poème est symbolique. Et il s'agit d'éviter toutes ces lumières et réussir à trouver la source de la vraie lumière. Tout le problème est donc de différencier à l'intérieur de ce que l'on peut appeler, entre guillemets, magie, le bon grain de l'ivraie. Donc d'une part, une magie blanche, donnée par Dieu, comme le dit Albert Legrand, qui est acceptée. D'autre part, une magie noire, qui sera très fortement condamnée. On retrouve par exemple la condamnation dans le syllabus, la préface aux condamnations d'Étienne Tempier en 1277, qui est l'archevêque de Paris. qui va condamner d'un même geste tous les traités de nécromancie, de chiromancie, etc. Et également, d'ailleurs assez bizarrement, le traité De Amore d'André Le Chapelain, qui est un traité sur l'amour courtois, mais bon, qui pose un problème hérétique à l'époque aussi. Mais bref, bon, tout cela va être condamné. Alors la Renaissance hérite de tous ces problèmes et de cette différence, en quelque sorte, entre la magie et la science. Alors il faut maintenant s'interroger sur, disons, quelque chose qui a longtemps été postulé, quelque chose qui semble, en quelque sorte, pour quelqu'un qui regarde à l'aune des concepts du XXe ou du XXIe siècle, cette période, on se dit, eh bien, progressivement, du Moyen-Âge à la Renaissance, puis plus encore évidemment à l'âge classique, la science a fini par se rendre compte de tout ce qu'elle traînait de vieilles superstitions, et elle s'est progressivement débarrassée de sa magie pour ne conserver que ce qui était la véritable science. Alors, c'est une thématique que l'on trouve même chez les plus grands auteurs, par exemple quelqu'un comme Ernst Cassirer dans « Individu et cosmos », qui est un ouvrage qui s'intéresse à la pensée de la Renaissance, eh bien, considère qu'il y a, par exemple, dans la magie, une magie naturelle et la nécromancie. Il y aurait donc une magie qui serait le début d'une philosophie de la nature ou d'une science de la nature, qui serait donc la voie qui disparaîtra en tant que magie pour devenir une science, tandis qu'il y a la nécromancie à côté, qui est la voie superstitieuse que l'on va abandonner. De la même manière, il y a cette astronomie, entre guillemets, cette astrologie mathématique qui travaille sur le mouvement des planètes, qui a des résultats, puisqu'on peut effectivement calculer des calendriers, donc elle marche, de fait, même s'il faut, avant que l'on ait la structure de l'ellipse et les découvertes de Galilée, il faut toute une série de cinétiques et de mouvements, des sphères assez compliquées pour rendre compte du mouvement, mais on y arrive. Donc cette astronomie mathématique, astrologie ou astronomie mathématique aurait été la voie vers la véritable astronomie, tandis qu'on aurait progressivement abandonné l'astrologie judiciaire, qui était son versant superstitieux. En réalité, eh bien, il faut bien voir qu'il n'y a pas un chemin continu de la magie à la science, et qu'on ne peut pas considérer que pour passer de la magie à la science, on se contente d'abandonner la superstition pour aller vers le vraiment scientifique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas comme cela que procède la science. La science procède par grande révolution. C'est-à-dire que pour véritablement changer d'époque scientifique, il faut, comme on dit, changer de paradigme. Il faut changer de modèle interprétatif de la totalité de l'univers. C'est pour cette raison que, par exemple, aujourd'hui, eh bien, l'astrologie peut nous apparaître effectivement comme une fausse science et du charlatanisme, etc. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans un cosmos spiritualisé, je suis dans un monde un petit peu désenchanté, dans un monde dans lequel il n'y a plus d'esprit qui gouverne derrière la matière, du moins pour du point de vue scientifique, puisque toutes les croyances, évidemment, continuent à perdurer. Et donc, de ce fait, eh bien, on a en quelque sorte une impossibilité d'aller vers ce monde de la Renaissance si on ne change pas notre vision du cosmos. Donc pour comprendre la manière dont un homme de la Renaissance doit faire la part entre la science et la magie, il faut se mettre dans cet univers dans lequel, eh bien, les choses sont aussi un peu mystérieuses, occultes, cachées et surtout vivantes et spiritualisées. L'ensemble de l'univers est avant tout un vivant qui répercute à tous les niveaux la gloire de Dieu, et qui, d'une certaine manière, eh bien, nous invite à chercher Dieu auprès des choses les plus insignifiantes et de remonter ainsi vers le Créateur. De ce fait, on ne peut pas dire que cette science pouvait se débarrasser de sa magie comme une superstition, tout simplement parce qu'elle était dans un univers qui était, nous dirions aujourd'hui, magique. Penser que les anges meuvent les planètes relèverait aujourd'hui d'une pensée magique. Alors pourtant, vous me direz, il y a toujours des astrologues, il y a toujours des tas de gens qui croient en l'astrologie. Oui, tout simplement parce que nous ne vivons pas tous à la même époque. C'est quelque chose qui peut paraître assez étonnant, mais si l'on croit à l'astrologie, c'est qu'on vit dans une époque d'un cosmos vivant, spiritualisé, etc. C'est que l'on est dans une pensée de la Renaissance. Alors pourquoi pas j'ai personnellement rien contre. L'important est de savoir exactement de quelle époque on parle. Et si je parle de l'astrologie aujourd'hui, eh bien, je devrais eh bien, me remettre dans le vocabulaire de mon époque si je veux véritablement comprendre ce qu'est cette science, qui n'est pas une science parce qu'elle ne se soumet pas, si l'on convient avec Popper, qu'une véritable science se soumet au principe de falsification, eh bien, elle ne veut pas se falsifier, elle ne montre que les résultats qui marchent. Comme vous le savez, évidemment, on trouve toujours des tas d'exemples de prophéties qui se sont réalisées ou d'horoscopes qui marchent, mais on cache les montagnes d'autres qui n'ont pas marché, bien évidemment. Alors, on comprend donc que nous ne pouvons pas penser les hommes de la Renaissance avec nos catégories, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans ce même univers. Et d'ailleurs, cela va nous permettre aussi de nous débarrasser, en quelque sorte, de pseudo-héritage. Puisque très souvent, on voit, chez certains auteurs de la Renaissance, la source du miracle de la science moderne ou des sciences plus tardives. On considère, par exemple, que quelqu'un sur lequel je vais m'intéresser de manière un peu plus approfondie, quelqu'un comme Francis Bacon, qui est, pour les dates, c'est 1561-1626, donc à la charnière entre le XVIe et le XVIIe, Francis Bacon écrit un ouvrage fondamental qui est le Novum Organum, le nouvel instrument, si l'on veut, qui est en quelque sorte un gigantesque discours de la méthode pour expliquer comment eh bien, se donner une nouvelle méthode en science, et il serait le père de la science expérimentale, puisque eh bien, il a tout misé évidemment sur l'analyse de l'expérience et a critiqué énormément les dogmatismes de son époque pour justement descendre dans le véritable champ scientifique qui est celui de l'expérimentation et qui permet l'acquisition de nouvelles théories universelles à partir de cette expérimentation. On se dit bah, très bien, effectivement nous avons là la naissance d'une véritable science expérimentale. Et puis ensuite on lit Bacon et on se rend compte que c'est, là encore, lire cet auteur avec nos catégories. Parce que Bacon ne refuse pas du tout la magie, bien au contraire, il l'intègre complètement dans le processus même de sa méthode scientifique. Alors, si on regarde quelques textes de Bacon dans ce Novum Organum, on se rend compte qu'il parle beaucoup de magie. Alors, pour un traité qui est censé être un traité de science, mais il distingue lui aussi les différentes magies et va tenter d'écarter évidemment, tout ce qui relève de la superstition et de la magie, si vous voulez, incompatible avec la science. Il nous dit, alors c'est une série d'aphorismes, notamment dans le livre 1, l'aphorisme 85, « Cependant, il ne faut pas nier que les alchimistes aient fait bien des découvertes et qu'ils aient enrichi les hommes d'inventions utiles. Mais on peut assez bien leur appliquer la fable du vieillard qui lègue à ses fils un trésor enfoui dans une vigne, prétendant ignorer l'endroit exact. » Ceci d'apporter tous leurs soins à retourner la vigne et, faute de découvrir l'or, d'améliorer par ce travail la vendange. Quant aux adeptes de la magie naturelle, qui arrangent tout par des sympathies et des antipathies entre les choses, se laissant porter par des conjectures oiseuses et des plus faciles, ils ont attribué aux choses des vertus et des opérations admirables. Et si, parfois, ils ont produit quelque œuvre, cette œuvre est d'un genre tel qu'elle prête à l'admiration et au goût de la nouveauté, non au profit et à l'utilité. Quant à la magie superstitieuse, s'il faut aussi en parler, on doit surtout remarquer qu'il est des sujets d'un genre défini et limité où les arts secrets et superstitieux, en toute nation, à toute époque et même dans toutes les religions, se sont exercés et ont produit leurs illusions. N'en tenons donc pas compte. Restons à ceci, il ne faut pas s'étonner que l'opinion de l'abondance ait été cause de la pénurie. Alors, que nous dit-il ici? Eh bien, c'est que la magie, en réalité, une certaine magie, cette magie naturelle, pas évidemment les élucubrations des charlatans, mais la véritable magie, eh bien, a quand même obtenu des résultats, et des résultats scientifiques. Elle est opératoire, elle a permis, comme il le dit, l'invention. Or, toute sa méthode du Novum Organum, justement, est de réussir à sortir une méthode permettant d'inventer et de faire de nouvelles découvertes. Or, dans ce cas-là, la magie a déjà fait cela. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque quelque chose de fondamental, c'est que, comme il le dit, c'est le fait qu'elle a découvert par hasard tout ce qu'elle a découvert. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas une bonne méthode. Mais donnons à la magie une bonne méthode et elle sera véritablement scientifique sans pour autant perdre son nom de magie. On voit donc bien que, pour ce père de la science expérimentale que l'on met maintenant entre guillemets, eh bien, en réalité, la pratique magique fait partie intégrante de sa réflexion et ne doit pas être considéré comme quelque chose que l'on rejette, mais au contraire, quelque chose que l'on transforme Ce qu'il dit dans un autre aphorisme, c'est au livre 2, c'est l'aphorisme 9, où il nous dit « Ainsi, la recherche des formes, qui, par leur nature assurément et conformément à leur loi propre, sont éternelles et immobiles, constituera la métaphysique. » Donc la métaphysique étudie les formes immobiles séparées. La recherche de la cause efficiente, de la matière, du progrès latent, du schématisme latent, de toute chose qui concerne le cours commun et ordinaire de la nature et non les lois fondamentales et éternelles, constituera la physique. Et on leur subordonnera respectivement une science pratique. À la physique, la mécanique. À la métaphysique, la magie. Mais il précise, le mot étant épuré, que je nomme ainsi en considération de la largeur de ses voies et de son plus grand empire sur la nature. Donc, appel à une magie épurée, considérée comme une sous-discipline de cette physique, et qui donc, eh bien, doit permettre, eh bien, de comprendre, ou du moins d'appliquer, des résultats qui proviennent de la science dont elle dépend. Alors, les deux sciences qui sont surtout en question lorsqu'on s'interroge sur ce rapport entre la magie et la science, ce sont bien entendu l'alchimie et l'astrologie. Là encore, gardons-nous de conclusions hâtives qu'on peut parfois lire de ci, de là. L'alchimie n'est pas l'ancêtre de la chimie. Elle n'est pas l'ancêtre de la chimie, tout simplement parce que là encore, il y a une rupture considérable entre la manière dont l'alchimie est pensée et la manière dont la chimie elle-même sera pensée, même si parfois, eh bien, la première chimie peut récupérer des sigles et des symboles qui étaient ceux de l'alchimie. En réalité, un alchimiste, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il ne cherche pas à découvrir de l'or avec la pierre philosophale, ça c'est, disons, plutôt pour... c'est son côté un peu image d'épinal. Ce qu'il cherche, c'est élever ce qui est en bas à la dignité de ce qui est en haut. Pourquoi, alors, cette histoire du plomb qui se transforme en or ? Tout simplement parce que, dans la hiérarchie du Moyen-Âge, toutes les choses sont en hiérarchie. Il y a au sommet Dieu, viennent ensuite toutes les intelligences angéliques. À la charnière entre les intelligences et le champ de la nature, il y a l'homme. Cet homme que les renaissants vont appeler le vinculum substantiale, le lien substantiel entre les choses terrestres et les choses célestes, qui, justement, par sa place centrale, eh bien, peut comprendre à la fois le spirituel et le matériel. Donc, il est le moyen terme entre toutes les choses de l'univers. Et dans cette structure hiérarchique, eh bien, les métaux, enfin, alors, toutes les choses sont hiérarchisées, ensuite, en dessous des hommes, il y a les animaux, les végétaux, les minéraux, puis la matière simple, sans forme. Dans cette hiérarchie, eh bien, tous les degrés sont eux-mêmes hiérarchisés. Chez les hommes, il y a des hommes bien qui utilisent à peine leur raison, et ils sont à la limite avec les bêtes. Et puis il y a ceux qui utilisent leur raison et qui sont des grands docteurs de l'Église, etc. Et ils sont à la limite des anges, et ça donnera la théorie de la sainteté, par exemple, qui, alors, pas chez tout le monde, mais qui chez toute une série d'auteurs, dont Albert Legrand d'ailleurs, eh bien, est quelque chose que l'on atteint après une grande conquête intellectuelle. C'est-à-dire que devenir un saint, c'est d'abord devenir un grand intellectuel. La sainteté, si vous voulez, est le terme d'un processus intellectuel. Alors, de même, dans les métaux, il y a un ordre. Le plomb est au plus bas de l'ordre des métaux, tandis que l'or est au plus haut. Transformer le plomb en or, c'est élever le plus bas au plus haut, et le plus obscur, le plomb est un métal obscur, doit s'élever à la luminosité de l'or, qui est le métal le plus resplendissant. D'ailleurs, on a, eh bien, toutes les pratiques, disons, alchimiques, sont des pratiques qui ne sont pas destinées véritablement à changer le plomb en or ou à transformer uniquement les métaux ou les choses. Le but, c'est de transformer l'alchimiste lui-même. C'est pour cette raison que lorsqu'un alchimiste travaille, à côté de ses fours et tout ce dont il a besoin pour ses expériences, il y a toujours un petit autel. Il fait des prières en même temps qu'il travaille, parce que chaque élaboration de son expérience est aussi un travail sur lui-même, qui, accompagné par la prière, permet d'atteindre un plus haut degré, en quelque sorte, d'humanité. Et c'est ça, véritablement, qui est le cœur de cette alchimie, c'est-à-dire réussir à transformer non seulement les choses, mais aussi l'individu qui est en train de les transformer. Le but est donc de comprendre des forces, qui sont des forces occultes qui agissent sur le monde, et surtout de réussir à les maîtriser. L'enseignement de Francis Bacon est fondamental parce qu'il explique que l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. Comme le dira un peu plus tard Descartes, mais qui dira comme maître et possesseur de la nature, puisqu'on ne devient jamais réellement. Mais maître et possesseur de la nature ne peut être, cet état ne peut être réalisé que si l'on se soumet d'abord à la nature. Donc il faut comprendre le fonctionnement de celle-ci, comprendre les forces qui agissent, pour les maîtriser, et pour ensuite transformer le monde, en comprenant véritablement la manière dont il fonctionne. Du coup, l'alchimie, Bacon sera, va considérablement changer, par exemple, la physique aristotélicienne. La physique aristotélicienne considère qu'au fondement même de toutes les choses se trouvent les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, qui permettent de comprendre la composition de toutes les autres choses. Pour Bacon, au fondement même de la physique, il y a deux éléments fondamentaux qui sont le soufre et le mercure. Le soufre et le mercure qui sont évidemment les éléments fondamentaux de toute l'alchimie médiévale et renaissante. Alors du coup, il recompose une physique fondée sur des principes de l'alchimie et à partir de là, revendique une méthode entre guillemets expérimentale, mais là encore, ça ne veut rien dire pour nous, puisque c'est l'expérimental au sens de Bacon, c'est-à-dire ce que pouvait être cette expérience dans un univers spiritualisé. Et ça reste cependant quelque chose qui peut être appelé magie, tout simplement parce qu'on ne sait pas très bien ce que sont exactement ces forces. On ne sait pas exactement comment elles fonctionnent. On peut voir des effets, on peut comprendre certaines de leurs opérations, mais on ne peut pas avoir accès à tous les secrets. Du coup, Bacon n'explique pas véritablement quelles sont ces choses, et il va se contenter de, cette fois, non seulement se débarrasser de la magie superstitieuse, nécromancie, tout ce qui relève de la sorcellerie, dirons-nous, pour intégrer véritablement la magie à la science. Pour lui, il n'y a aucun problème à conserver même le terme de magie, à condition de l'épurer. Alors là encore, on retrouve du vocabulaire alchimique, puisque l'épuration est un processus classique de la pratique alchimique. Donc on épure la magie elle-même, et l'on aura une science particulière, qui sera plutôt un art, en réalité, puisqu'il s'agira de quelque chose qui opère sur le réel. C'est pour ça que Bacon a besoin d'avoir des sciences opératives qui viennent doubler des sciences théoriques, des sciences qui véritablement vont s'ancrer dans le réel, et la magie fait partie de ces sciences-là. Il faut donc voir cet univers véritablement comme un univers de correspondance, un univers dans lequel il ne s'agit pas simplement de faire de la science comme on l'entendrait aujourd'hui, guidée par des mathématiques, etc., mais on doit aussi prendre en compte le côté très symbolique du monde, Dieu nous ayant mis, on pourrait dire, à l'intérieur d'une forêt de symboles, alors, qui deviendra ensuite quelque chose de poétique. C'est-à-dire si on repense à l'astronomie, à l'alchimie, on se rend compte qu'on va en retrouver au XIXe siècle, mais chez les poètes. Si on regarde Baudelaire, par exemple, les poèmes saturniens ou les forêts de symboles, etc., il est dans un monde de correspondance, il est dans un monde qui est le monde vivifié de la Renaissance. Mais il n'est pas un scientifique, il est un poète. Tout le monde de la Renaissance continuera à être opératoire dans notre monde, il est toujours opératoire aujourd'hui, mais nous appellerons plutôt des poètes que des scientifiques. Donc c'est cette période-là dans laquelle il faut vraiment se mettre pour réussir à comprendre comment ils envisageaient ces différentes manières de voir le monde. Par exemple, prenons un exemple qui est toujours assez éclairant, c'est celui que prend Michel Foucault dans « Les mots et les choses », qui provient du traité des signatures de Crollius, qui est un auteur de la Renaissance, qui explique qu'on peut trouver « les choses sont signées ». C'est une vieille théorie médiévale de la matière signée. Elles sont signées, elles ont reçu une forme, mais ces formes sont aussi un indice nous permettant de comprendre à quoi servent les choses. Par exemple, si vous ouvrez une noix, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le cerneau de noix a la forme d'un cerveau. Ça veut dire que la noix est bonne pour les maladies de la tête. Voilà le genre de signe qui permet de comprendre le réseau symbolique, puisque Dieu nous a mis un indice dans la forme même de la noix pour nous faire comprendre pourquoi il faut en prendre lorsque l'on a des maladies de la tête. Bon, alors, il y a plein d'autres correspondances, comme cela. Et c'est dans ce monde que doit être pensée la magie. Alors vous voyez, effectivement, quand on considère ce monde symbolique, on se rend bien compte qu'on est très loin d'une distinction science-magie de l'époque contemporaine. Le magicien, en réalité, est un opérateur sous la nature, c'est ça que veut Francis Bacon. Il peut changer le monde, il peut inventer, et il peut faire des choses nouvelles. Alors, on va trouver énormément d'auteurs tout au long de la Renaissance qui vont défendre la magie. Par exemple, Marcel Ficin, grand auteur du XVe siècle, eh bien, va lui aussi défendre considérablement la pratique magique en disant eh bien, qu'elle utilise des forces spirituelles qui sont à l'intérieur des choses mêmes, et que ces forces spirituelles ont été données directement par Dieu, et que donc il n'y a aucune hérésie à faire de la magie. Donc toute la différenciation sera entre une magie hérétique et une magie, donc cette magie blanche dont je parlais. Alors, ces liens que recèle le monde eh bien, peuvent être révélés. C'est par exemple ce que, au XVIe siècle, va défendre Giordano Bruno, là encore, un des auteurs fondamentaux de la Renaissance, qui va écrire un traité intitulé « De la magie ». De la magie dans laquelle eh bien, il va essayer de penser justement cette science. Je ne vais pas vous lire parce qu'il fait toute une série de différenciations, mais elles sont très longues, au début du « De la magie », où justement il essaye de définir les différents types de magie pour savoir exactement de quoi l'on peut parler si l'on veut véritablement faire de la magie et non pas des choses qui relèvent finalement de l'illusion ou de la supercherie. Ce qui est intéressant dans la magie pour Bruno, c'est que c'est pas tant le fait qu'elle soit opératoire sur le réel, mais c'est qu'elle révèle les liens cachés existants entre les choses du réel. Donc en ce sens, elle nous permet de comprendre le nexus, le lien qui existe entre toutes les choses, qui est un lien évident pour un homme de la Renaissance, puisque tout a été créé par Dieu, premier principe, et donc toutes les choses sont organisées dans un cosmos ordonné. Depuis Saint-Augustin, l'idée d'ordre cosmique est quelque chose qui est extrêmement important dans la philosophie et dans la théologie. Toutes les choses ont été ordonnées par Dieu, toutes les choses sont donc dans cette hiérarchie, et il s'agit de comprendre, eh bien, puisqu'elles forment un tout, comment elles se relient entre elles, quels sont les liens cachés, qui ne sont pas immédiatement évidents, mais que la pratique nous permettra de révéler. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce monde de la Renaissance, si on veut essayer d'établir une grande caractérisation permettant de comprendre un petit peu eh bien, la manière dont on pensait à l'époque. Tout d'abord, l'univers est uni. Comme son nom l'indique, en quelque sorte, c'est universus, ce qui est tourné vers l'un, donc l'univers est un tout. De ce fait, les choses, si l'on prend les distinctions aristotéliciennes, supralunaire et sublunaire, ce qui est en dessous du ciel de la Lune et ce qui est au-dessus, correspondent. Et donc, de ce fait, eh bien, nous avons une théologie qui assure l'existence des anges et une philosophie, une métaphysique, eh bien, qui n'hésite pas à spiritualiser la totalité du cosmos. Tout ça parce que l'univers est un tout, et c'est un tout vivant, créé par Dieu, donc qui n'est pas un vivant, mais qui est la cause de tout le vivant. Deuxième point fondamental, dans cette ambiance, dans ce système quasi-organique, l'homme est à la place centrale, c'est-à-dire qu'il est le lien substantiel, comme je disais tout à l'heure, entre le monde corporel et le monde spirituel. Donc c'est à lui, eh bien, qu'il faut donner la charge d'expliquer le monde et surtout de le transformer. Parce que tout le problème, évidemment, est de savoir, une vieille question théologique médiévale, comment se fait-il que Dieu, qui est parfait, dont l'opération est parfaite, ait créé un monde aussi imparfait ? Le monde devait être parfait, si Dieu avait voulu le créer, qu'il était bon, etc. Alors, vieux problème théologique, avec lequel se bat d'entrée de jeu Augustin, avec les premières objections que l'on fait aux chrétiens, et il va dire, en quelque sorte, c'est parce qu'on ne voit pas le tout du monde. C'est-à-dire que nous sommes dans un état, en quelque sorte, de germination du monde. C'est-à-dire que le monde a commencé à un instant T, l'instant de la création, Dieu a créé toutes les choses de manière parfaite, mais parfaites selon la forme de la puissance, c'est-à-dire qu'elles avaient la capacité d'être parfaites, comme un petit peu un embryon est un homme en puissance. Vient ensuite le temps de la germination et du déploiement de cette puissance. Et c'est ça dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans le temps de germination du monde, alors c'est encore imparfait. C'est encore imparfait puisque nous attendons la fin des temps où le monde sera véritablement achevé, puisqu'il y a un début, il y a aussi une fin. La création ne se pense pas sans le jugement dernier. Et là, nous verrons l'étendue de cette perfection de la création dans sa totalité. Alors, le monde médiéval et le monde redescend vont néanmoins avoir un changement radical sur la manière d'envisager l'homme dans cette perspective. Parce que pour l'homme du Moyen-Âge, souvent très augustinien, alors, terme qui ne veut rien dire parce que tout le monde est augustinien au Moyen-Âge, simplement personne n'a la même interprétation d'Augustin que son voisin, donc c'est un peu spécial l'augustinisme, mais disons que bon, mettons qu'ils soient tous augustiniens comme si ça avait un sens. Cet ordre immuable de toutes les choses, eh bien, est un ordre que je ne peux pas changer. Si j'agis sur le réel, c'est pour me mettre à ma place. C'est-à-dire que je naîtrai, par exemple, alors, si je rajoute ensuite les acquis de l'astrologie, par exemple, je naîtrai sous une bonne étoile, sous une bonne configuration planétaire, avec des parents qui me donnent biologiquement eh bien, les moyens d'avoir un corps qui ne soit pas défaillant, donc qui me permettront de développer au maximum mes capacités intellectuelles. Bref, si je suis bien né, eh bien, je pourrais arriver à de très autre chose, arriver à devenir un docte, arriver à devenir un saint. Simplement, si je suis dans des mauvaises circonstances, j'aurai un corps difforme, un intellect déficient, je serai en quelque sorte, j'aurai peu reçu de la nature, je ne pourrai pas faire grand-chose. Néanmoins, c'est toute l'idée de mérite que les chrétiens vont mettre en place, si j'ai peu reçu, et que de tout ce que j'ai reçu, eh bien, j'en tire le maximum. Je n'irai peut-être pas très haut dans l'échelle des êtres, mais j'aurais fait le mieux que je pouvais. Et donc, je serais méritant comme le plus haut des bienheureux, et j'aurai au paradis la meilleure place. Par contre, si je suis né sous une bonne étoile, dans une très bonne configuration, et que je n'en fais rien, alors par paresse, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer, enfin, c'est un long débat là aussi au Moyen-Âge, eh bien là, je serais châtié, même doublement châtié, puisqu'on m'avait tout donné et je n'en ai rien fait. Donc l'idée, c'est simplement... Alors l'exemple, c'est pour ça que quand il arrive au paradis, Dante se dit, comment se fait-il que la lumière, parce qu'il y a plein de lumières au paradis, toutes les âmes, la lumière de Salomon brille plus que celle d'Adam. Parce qu'Adam est un homme parfait, bon, il a chuté, d'accord, mais c'est quand même le plus parfait, il représentait l'humanité à lui tout seul, bon, quand même. Et Béatrice lui explique, non mais en fait c'est parce que Salomon est celui qui a fait la demande la meilleure. Il a demandé à Dieu une seule chose, « Mon Dieu, je suis un roi, faites que je sois le meilleur des rois. » C'est-à-dire faites qu'à ma place, je sois le meilleur. C'est ça que doit faire un chrétien, c'est-à-dire savoir quelle est sa place et s'y mettre et rester ensuite à sa place. Donc il n'est pas question de changer la hiérarchie. Il s'agit simplement de connaître sa place et de s'y placer. À la Renaissance, au contraire, eh bien, on va avoir une autre idée. C'est-à-dire que l'homme doit, en quelque sorte, transformer le réel, doit l'élever, doit réussir, eh bien, à imposer, en quelque sorte, sa liberté et sa place. Et donc, de ce fait, il doit agir, opérer sur la nature. D'où l'importance fondamentale de cette magie. Puisque c'est elle, la science opérative, c'est elle qui est pratique, c'est elle qui va permettre véritablement d'agir sur le réel. Et du coup, à partir de là, eh bien, c'est avec la magie, bon, et d'autres sciences pratiques, mais la magie n'étant pas du tout rejetée, que l'on va pouvoir transformer le réel pour l'élever à plus de dignité. Et les alchimistes, qui ont été longtemps persécutés, finalement, ne cherchaient que ça. Ils ne cherchaient pas à devenir riches en faisant de l'or, mais ils voulaient élever, tout simplement, eh bien, ce qui était obscur, le monde de la matière, eh bien, à la lumière de la spiritualité. Et peut-être d'ailleurs ont-ils réussi, puisque vous savez que les alchimistes ont été très persécutés, ils se sont beaucoup cachés. Ils se sont beaucoup cachés essentiellement en tant que souffleurs de verre, parce que évidemment quand vous avez des fourneaux, des alambics, etc., c'est plus facile de vous cacher en étant souffleur de verre, ça peut passer pour relevant de votre métier qu'autre chose. Et ils ont donc contribué à la formation des vitraux. Et on se rend compte finalement que si vous regardez un vitrail, vous vous rendez compte qu'un vitrail c'est quoi? C'est du verre délimité par du plomb. Et finalement, eh bien, tous les matins, lorsque le soleil se lève sur une cathédrale, comme Notre-Dame par exemple, eh bien, la lumière rentre par les vitraux et on ne voit presque plus ce plomb qui délimite les différents morceaux de vitraux. Et on peut dire que finalement, tous les matins, la transmutation alchimique est réussie. Elle est réussie parce que eh bien, le plomb s'élève à la lumière, enfin, tout simplement dans le travail du vitrail. C'est comme ça aussi qu'on a découvert le cristal, puisqu'il fallait un peu de plomb dans ce verre pour qu'on puisse avoir le cristal. Donc les alchimistes ont quand même réussi à transposer leur art, même ceux qui étaient condamnés, mais dans une optique esthétique. Bon, fin de cette parenthèse. Donc, pour revenir à nos trois points, alors je donnais que deux points, l'univers est un tout, l'homme est un centre, et enfin, la science n'est pas uniquement quelque chose d'intellectuel et de spéculatif. En effet, chez Aristote, et pendant tout le Moyen-Âge, la science est un terme qui se comprend en degrés. De la même manière qu'il y a une hiérarchie de tout, il y a une hiérarchie des degrés du mot science. Et la plus haute science sera celle qui connaît le mieux les plus hautes causes. Mais il y a des sciences qui sont des degrés inférieurs, c'est d'où cette hiérarchie et cette classification même universitaire des sciences, qui font que, donc, eh bien, est véritablement scientifique ce qui est intellectuel et spéculatif à différents niveaux. Il va falloir ajouter à présent, dans cette définition de la science, ce qui relevait de la définition de l'art aristotélicien ou de l'art médiéval, c'est-à-dire l'opération pratique. Et on va donc demander, on l'a vu avec Pietro d'Abano au seuil de la Renaissance qui revendiquait cela pour la médecine. Alors en fait, ça va un peu s'effondrer en 1348 à cause de la Grande Peste, parce que Pietro d'Abano, alors les médecins, si on regarde l'histoire de la médecine italienne, jusqu'en 1348, en Italie, c'est la guerre pour se voler chacun les meilleurs médecins de leur ville. Il y a une gloire associée au métier de médecin qui est incroyable. Ils se vendent aux plus offrants, persuadés que la médecine a donc achevé et qu'on guérit toutes les maladies. Puis Grande Peste de 1348, la médecine n'y peut rien. Et on se retrouve dans le creux de la vague médicale, évidemment, où ils vont perdre en quelque sorte tout le crédit qu'ils avaient acquis. Donc, ce que va changer cette Renaissance, dans ce troisième point, c'est le fait que le savoir n'est plus une pure spéculation intellectuelle. Le savoir est un pouvoir. C'est un pouvoir d'action, c'est un pouvoir d'invention, c'est un pouvoir de transformation du réel, et c'est un pouvoir qui revendique la nouveauté. Alors, si on doit faire des grandes caractérisations, je vais essayer de ne pas déborder, on pourrait dire eh bien, que c'est à partir de l'idée de véritablement de nouveauté qu'on peut peut-être essayer de dater l'esprit de la Renaissance. C'est à partir du moment où on veut faire du nouveau. En effet, le Moyen-Âge se caractérise par l'impossibilité, en quelque sorte, de faire du nouveau, c'est-à-dire de créer. Thomas d'Aquin refuse que l'on applique le terme de création à quelqu'un d'autre que Dieu. Seul Dieu crée. Nous, nous sommes des producteurs, des fabricateurs, nous transformons, mais nous ne créons pas. La nouveauté, c'est avant tout ex nihilo qu'elle se produit à partir du rien. Or, ce sera tout le travail de la Renaissance, c'est justement faire passer la création faire sortir la création, en quelque sorte, cette dimension divine, pour la donner à l'homme. L'homme est aussi un créateur. Et peut-être même est-il encore plus l'image de Dieu lorsqu'il est créateur que lorsqu'il ne l'est pas. Du coup, il faut revendiquer ce terme de création, il faut revendiquer cette opération de l'homme, parce que c'est vraiment en transformant le monde, en l'élevant, que l'on va réaliser l'objectif divin. La réinterprétation, si vous voulez, des sciences magiques du Moyen-Âge consistera à dire, eh bien, pour être véritablement un homme, je dois ressembler à mon créateur, il m'a donné un monde brut. Je dois le transformer et le parfaire. Telle est la tâche de l'homme. Parfaire ce monde, agir sur ce monde, et donc cesser de considérer la science comme quelque chose d'essentiellement spéculatif, qui aurait toute sa dignité dans la spéculation purement abstraite, pour l'ancrer aussi dans le réel, dans le domaine de la pratique, et donc toujours associer à la spéculation un domaine d'action véritable. Et finalement, eh bien, très souvent aussi, ce que l'on appelle magie n'est qu'un nom que l'on donne à la science, mais à une science à ses débuts, on pourrait dire. C'est ce que dit Tommaso Campanella, qui est à la charnière lui, entre le XVIe et le XVIIe. Alors, je vous le cite, je n'ai pas l'ouvrage, mais je vous le cite dans... il est cité par Eugenio Garin, Moyen-Âge et Renaissance, qui est un ouvrage très intéressant et vraiment très accessible sur ces deux périodes. Et voilà, vous trouverez plein de choses fort intéressantes. Sinon, le passage que je voulais vous lire n'est pas spécialement long, puisqu'il nous dit tout simplement, Tommaso Campanella, dans « Du sens des choses et de la magie », car tant qu'on ne comprend pas l'art qui préside à de telles réalisations, on parle toujours de magie. Après, c'est science vulgaire. Donc finalement, le nom de magie n'est que le nom temporaire, en quelque sorte, d'une activité pratique qui n'est pas encore capable véritablement de tout expliciter, mais qui est en voie vers la scientificité. Donc on aurait chez Campanella cette idée, en quelque sorte, que l'épuration de la magie donne au final la science. En réalité, non, parce que même en épurant la magie à la manière de Bacon, on ne fera pas encore la grande révolution scientifique qui sera celle une véritable géométrisation et déspiritualisation du réel qui sera celle de l'époque moderne. C'est Descartes, par exemple, expliquant qu'il faut cesser de voir... il critique les formes substantielles que l'on trouve dans la scolastique renaissante, mais aussi médiévale, et en disant que ce sont comme des petites âmes que l'on a mis à l'intérieur de toutes les choses, et il reproche à l'univers de ses prédécesseurs d'être un univers justement plein d'âmes, où toutes les choses sont animées, et où finalement, c'est sous le schème du vivant que l'on comprend la totalité des choses. D'où cette mécanisation complète et abstraction complète, la réduction de la matière à l'étendue, etc., que fera Descartes, qui seront une rupture complète dans le changement, en quelque sorte, de paradigme du monde. Est-ce qu'on peut dire vraiment cela ? Là encore, ce serait un petit peu exagéré. Ce serait oublier que des gens comme Newton, par exemple, fut un des très grands alchimistes de son époque. C'est oublier que Kepler, que tout ça, auront aussi des pratiques assimilées à la magie. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus avoir une espèce de vision un petit peu idéaliste de cette science qui, tout d'un coup, avec Descartes, se débarrasserait de ses anciennes idoles pour rentrer dans la voie de la scientificité contemporaine, etc. Non. Tout cela sera encore un long travail, de nouvelles ruptures. À cette vision du monde, une autre vision du monde se substitue, mais qui finalement est encore assez différente de la nôtre sur bien des points. Et on se rend compte que finalement, passer de la magie à la science n'est pas quelque chose qui se fait de manière continue, mais eh bien un processus de remise en question complet de tout le système de pensée d'une époque. Je reprendrai l'expression de Michel Foucault qui parle d'épistémé, c'est-à-dire qu'il ne parlera pas de science, mais parlera plutôt d'une épistémé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une épistémé ? C'est justement la correspondance de toutes les sciences, de toutes les disciplines à une époque donnée. Lorsque vous êtes dans l'épistémé de la Renaissance, eh bien vous avez un cosmos vivant, vous avez de l'astrologie, vous avez de l'alchimie, vous avez des mathématiques, tout cela est englobé dans la même épistémé qui ne remet pas en question ses fondamentaux. Quand vous changez de période, eh bien vous changez d'épistémé. Et même si vous avez des termes qui ressemblent, évidemment, parce qu'on parle toujours de la même langue, enfin, en l'occurrence, on parle toujours du latin, oui, bien sûr, on a des mots dont on hérite, mais les mots ont été changés dans leur sens radicalement en changeant d'épistémé. C'est pour ça que le rapport magie-science est très difficile à comprendre, et qu'il ne faut pas voir, évidemment, les hommes de la Renaissance comme des gens qui étaient dans la voie de la science, mais qui gardaient encore leur vieille substitution. Cela faisait partie intégrante de leur être même et de la vision qu'ils avaient du monde. Je crois ce que dit, alors il y a un petit passage là, de Garin qui dit ça très bien. « La magie et l'astrologie postulaient la solidarité et l'unité de la nature entière, où le scintillement de l'astre le plus lointain se répercute sur le lieu le plus caché du monde, et inversement, où tout mouvement de l'âme se prolonge en écho infini. Il n'existe pas d'abîme ni de frontière, mais une gamme de correspondances dans le fleuve mouvant de la vie universelle. » Voilà ce qui est le mode de pensée d'un homme de la Renaissance. Et on se rend compte, et je terminerai là-dessus parce que je crois que... D'accord, mais je vais terminer... oui, je pourrais terminer avec ça. En revenant à notre Francis Bacon que l'on voyait, que j'ai pris un peu comme figure emblématique justement parce qu'on l'a beaucoup chargé de cette tâche incroyable d'être le fondateur de l'empirisme, de la science expérimentale ou je ne sais quoi. Alors Francis Bacon, donc, dans son Novum Organum, garde des problématiques qui relèvent de l'alchimie. Il garde toute une série de choses qui sont cette magie épurée dont je parlais tout à l'heure. Et formuler la totalité de sa recherche méthodique, de sa recherche scientifique, dans un vocabulaire qui est en réalité le vocabulaire de l'alchimie. En effet, on se rend compte que, bien qu'il y ait tout l'appareillage de ce qui nous paraît être une méthode réellement scientifique, au sens où on peut donner à notre époque... ce sens-là, à ce terme, eh bien, on se rend compte que, chez Bacon, tout cela est formulé dans un langage qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est le langage de l'épuration, de la transmutation, de la transformation. Un système dans lequel, comme je disais tout à l'heure, il y a le soufre et le mercure à son fondement. Bref, un système qui est pensé dans l'alchimie elle-même, plutôt qu'un système qui chercherait à l'exclure comme une fausse science. Alors, Il nous dit, par exemple, dans le second livre des aphorismes, livre 2, c'est le premier aphorisme, « Sur un corps donné, faire naître et apposer une ou plusieurs natures nouvelles, c'est l'œuvre et la fin de la puissance humaine. D'une nature donnée, inventer la forme ou la différence vraie, ou la nature naturante, ou la source d'émanation, pour employer les mots qui s'approchent le plus d'une juste désignation, c'est l'œuvre et la fin de la science humaine. Or, à ces deux premières œuvres, sont subordonnées deux œuvres secondaires de moindre degré. D'abord, la transformation des corps concrets, les uns dans les autres, autant qu'il est possible. » Alors, la transformation des corps concrets, les uns dans les autres, c'est l'alchimie. C'est ça, cette pratique, effectivement, qui permet la transformation ou la transmutation des métaux ou d'autres choses. Ensuite, l'invention. Dans toute génération et mouvement, du progrès latent poursuivi sans interruption depuis l'efficience et la matière manifeste jusqu'à la forme conférée. Et semblablement, l'invention du schématisme latent des corps au repos et non en mouvement. Donc nous avons bien ici l'idée selon laquelle on va avoir besoin, sinon de la totalité de ce qui était l'alchimie ou la magie, mais du moins ce qui pouvait être le plus utile, là où la magie et l'alchimie ont fait le plus de découvertes, et cela va être intégré dans le corpus de la science et va se retrouver dans la manière même dont Bacon écrit. Alors, j'ai un passage plus représentatif, puisqu'il revient. Alors il revient dans le Novum Organum sur les histoires d'alchimie, qu'il va appeler chimiste d'ailleurs, mais ce sont les alchimistes. L'industrie des chimistes a produit quelques résultats, mais quasi par hasard et chemin faisant, par quelques variations dans les expériences, à la façon des mécaniciens, et non par l'effet d'un art ou d'une théorie. C'est donc à ça qu'il faut remédier, que ce ne soit plus par hasard. La théorie qu'ils ont forgée trouble plus les expériences qu'elle ne les aide. Voilà le problème, justement, de cette alchimie sans méthode. C'est qu'elle a obscurci ses propres expériences et est devenue une science obscure, alors qu'elle avait les moyens, en se donnant une bonne méthode, de devenir une science claire. Ceux qui s'occupent de magie naturelle, c'est leur terme, ont également peu d'inventions à montrer, et des inventions futiles et bien proches de l'imposture. Donc voilà, il y a des imposteurs, mais ce n'est pas la magie qui est une imposture. C'est l'utilisation qui en a été faite, et le refus, en quelque sorte, de se donner une véritable méthode d'enquête. De ce fait, on se rend compte qu'avec Bacon, eh bien, il sera nécessaire d'opérer à ce retour vers la magie. Pourquoi ? Parce que comme Pietro d'Abano au tout début nous le disait, eh bien, c'est à force de pratiquer que l'on fait et l'on produit des jugements universels, que l'on fait des jugements qui permettent de valoir quels que soient les cas. Il y a un échange perpétuel, comme la route qui va de Thèbes à Athènes, nous dit-il, entre la théorie et la pratique. Or, l'alchimie, la magie, sont des sciences pratiques, sont des sciences qui opèrent dans le réel, qui font des erreurs, qui se trompent, etc., mais qui, lorsqu'elles réussissent à répéter leurs expériences, et même peuvent ensuite être universalisées. Et donc, de ce fait, il y a un échange constant entre cette pratique magique et la possibilité d'en extraire des jugements qui sont des jugements véritablement scientifiques, qui naissent de cette véritable, d'une pratique véritable, et qui sont les acquis que doit conserver le véritable scientifique. Donc ne pas rejeter la magie dans son ensemble, comprendre bien, eh bien qu'elle est un processus par lequel, par des manipulations sur des choses infimes, je peux réussir à produire des choses grandioses, petites causes, grands effets, sera en quelque sorte une des formules fondamentales de cette alchimie. Mais pour cela, le renouveau est avant tout celui de la méthode. Donc au terme de ce parcours, alors un peu rapide évidemment, d'une multitude de siècles, c'est toujours le problème, c'est pour ça que j'ai essayé de centrer sur plus un auteur, Bacon, histoire d'avoir pu dire deux, trois choses plus claires sur au moins une personne, on se rend compte que ce qui rend très difficile, disons, la lecture des textes de la Renaissance, comme du Moyen-Âge d'ailleurs, c'est cette espèce de rupture entre notre épistémé, notre manière de voir le monde et leur manière propre. Ce qui fait aussi que c'est comme cela que l'on a porté des jugements qui étaient des jugements, disons, assez injustes sur les auteurs de la Renaissance, où beaucoup étaient considérés comme plus ou moins fumistes, parce qu'ils gardaient de la magie dans l'ensemble de leurs œuvres, et donc ce n'était pas très sérieux. Au contraire, ça faisait partie intégrante de leur système de pensée. Simplement, ce qu'ils appelaient magie, eh bien, n'est pas du tout ce que nous appelons aujourd'hui magie. Or, quand on lit les textes du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est un des problèmes contemporains aussi fondamentaux, c'est que vous voyez aujourd'hui énormément de livres d'auteurs qui, par ailleurs, ne sont pas traduits, mais dont on va traduire un traité d'alchimie, un traité de... du pouvoir des pierres, par exemple, « De Mineralibus » d'Albert Legrand, qui va expliquer comment les pierres guérissent telle maladie, et la luminosité de ces pierres, bien on va les traduire comme si ça avait un sens pour nous. Et des lecteurs, aujourd'hui, vont lire ces livres comme s'ils pouvaient lire chaque mot avec le sens des mots que notre époque leur a donné, alors que pas du tout. Bien évidemment, comprendre le « De Mineralibus », par exemple, d'Albert Legrand, ou le pouvoir que peuvent avoir les pierres, il faut se remettre dans la pensée de l'époque. Par exemple, dans la pensée de la pierre précieuse, c'est quoi une pierre précieuse? C'est une pierre qui est lumineuse. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que sous chaque cathédrale, vous avez un trésor. Vous savez, un trésor, c'est un vrai trésor. Il y a des diamants, rubis, etc. Parce qu'il y a la lumière qui rentre par les vitraux. Donc, pour l'élévation, le but étant toujours de s'élever vers la lumière. Ces cathédrales qui ont été construites par des maçons, des alchimistes, etc., qui étaient dans cette ambiance et qui étaient des savants pratiques, qui donc étaient bien tous dans cette ambiance de pensée, qui ont créé des cathédrales totalement symboliques, bon, qui sont un autre propos évidemment, qui sont écrites souvent en langage alchimique. Donc il y a la lumière extérieure qui rentre par les vitraux, mais dessous, la force de l'élévation doit aussi se produire grâce à une matière lumineuse, d'où le trésor. Et c'est l'abbé Suger de Saint-Denis, qui, donc une des premières grandes cathédrales, qui, dans une lettre, explique à quel point il se sent s'élever vers Dieu dès qu'il regarde des tas de rubis, de diamants, de pierres précieuses, et que la contemplation de tous ces trésors est une véritable élévation vers Dieu grâce à un moyen terme qui est celui de ces pierres travaillées qui ont atteint un état de perfection par rapport à la pierre brute, qui est le plus haut degré des pierres. Et donc en les contemplant, eh bien, on va pouvoir s'élever à la contemplation du divin. Elles n'en sont qu'une médiation vers cette divinité. Donc en conclusion, on pourrait dire que finalement, eh bien, de la magie à la science, à la Renaissance, il n'y a qu'un pas. Et pour réussir véritablement à se débarrasser de la magie, mais fallait-il s'en débarrasser? Pas pour eux, puisqu'ils étaient dans une autre époque. Eh bien, il faut se débarrasser avant tout de toute leur vision du monde. Il faut le désenchanter totalement. Il faut lui enlever toute parcelle de spiritualité pour réussir à tomber dans un monde véritablement mathématisable et quantifiable, qui serait celui, eh bien, de notre physique contemporaine. Et alors, évidemment, restent les acquis magiques de cette Renaissance, restent tous ces textes, qui sont des textes souvent très beaux, mais ceux-ci sont plutôt à lire pour nous, eh bien, comme quelque chose relevant de la poétique, plutôt que comme un enseignement caché, eh bien, qu'on pourrait aller voir en espérant trouver des secrets oubliés, et ce n'est pas dans les fonds de la bibliothèque du Vatican, bien que l'époque soit à s'intéresser au fond de la bibliothèque du Vatican où il y aurait des choses on ne peut plus scandaleuses, où on va trouver les grands secrets qui ont été cachés par des générations. Ce sont simplement eh bien, des choses qui aujourd'hui sont passées dans notre poésie, dans notre art, dans l'art symbolique, dans toute une série de disciplines qui sont plus des disciplines esthétiques, qui, elles, en quelque sorte, réenchantent ce monde désenchanté, en quelque sorte, de la science contemporaine. Voilà, merci beaucoup.
Je remercie beaucoup en votre nom, Monsieur Octaviani. Lundi dernier, la plupart d'entre vous étaient là, on avait vu les débuts du capitalisme avec Jean-Jacques Herouëc. Nous avions été étonnés d'être vraiment quasiment dans le même monde basique que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons été transportés, voilà l'absus intéressant, dans un tout autre univers, et je ne doute pas que ça va susciter de nombreuses questions ou interventions.
Dans l'iconographie alchimique, il y a des animaux, je crois, des animaux aussi mythiques, comme par exemple la licorne. Mais quels sont les animaux qui l'emportent, les animaux fantastiques ou les animaux réels?
Alors là, je ne m'engagerai pas véritablement dans cette difficile question parce que la symbolique des alchimistes est des fois très propre à chaque alchimiste. Donc du coup, Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'animaux qui l'emportent. Il y a des animaux symboliques qui ont une force considérable, comme le dragon, par exemple. Disons, peu importe que l'animal soit symbolique ou non, il est avant tout effectivement un symbole, une image. Donc sa réalité ou son inexistence ne pose pas véritablement problème. Ils sont plutôt le symbole d'un quelque chose. Le dragon sera plutôt le symbole de la transmutation, voilà, des choses comme ça. Alors ensuite, pour les différents autres animaux, il y a eu beaucoup de bestiaires au Moyen-Âge, mais c'est plutôt pour des problèmes éthiques qu'ils avaient été mis en place. Alors je vous avoue, je connais peu la stricte symbolique alchimique des animaux, etc. J'ai plutôt travaillé sur les côtés plus scientifiques, bon, comme souvent, que les côtés magiques, parce que les côtés magiques ont très mauvaise presse, vous n'en doutez pas. Et donc c'est vrai qu'on attend d'avoir fait d'ailleurs des choses prouvant qu'on était bien dans la science avant de partir dans les domaines de l'occultisme. Personnellement, moi j'ai beaucoup travaillé sur un auteur sur lequel j'ai fait ma thèse, qui était Dante, qui lui a toute une symbolique animale, qui n'hésite pas à prendre des animaux totalement étranges dans son enfer, mais qui, justement, ne donne pas sa symbolique. Et qui dit, voilà, j'ai changé tous les symboles, les miens sont totalement originaux, personne d'autre ne les a, mais comme souvent les auteurs de l'époque, mais je ne vous donne pas le code. Et c'est souvent ça le problème de cette littérature alchimique, c'est que on n'a pas les codes. Et ils n'ont pas été légués. Par exemple, aujourd'hui, il est très difficile de trouver quelqu'un qui pourrait réellement lire Notre-Dame de Paris, par exemple, qui est pourtant écrite avec un langage chimique, ou à Venise, par exemple, où il y a toujours ce mythe de Venise. Vous savez qu'on doit faire un parcours dans Venise, et en passant par des portes, grâce aux inscriptions sur les maisons qui vous indiquent, permettent de réaliser la transmutation de l'individu. Bon, mais plus personne ne sait lire Venise, disons qu'ils sont partis avec leurs secrets. C'est d'où il ne reste que l'interprétation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir éventuellement quelques codes de symboles qui sont figés, mais c'est des codes qui sont toujours extrêmement mouvants en fonction plutôt des individus que véritablement d'une espèce de classification générale qu'ils accepteraient tous. Voilà, ça ne répond pas véritablement à votre question, parce que les animaux les plus importants, du coup, vous voyez, je ne saurais trop lesquels choisir, à part effectivement, par exemple, la licorne qui apparaît aussi. Voilà, il y a beaucoup d'animaux qui sont effectivement plutôt imaginaires. Oui, le phénix. Oui.
Vous dites qu'ils sont partis en ne nous donnant pas les codes. Est-ce qu'il y avait vraiment des codes à donner, ou c'est comme dans la fable que vous avez racontée au départ du trésor caché?
D'où l'intérêt de cette fable. C'est-à-dire que ça, c'est une idée. Alors, bon, là, on rentrerait dans des problématiques un peu complexes qui supposeraient des raisonnements vraiment très pointus sur les textes. Mais il faut voir que tout ça se produit dans une ambiance de pensée qui est la rencontre des trois monothéismes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le Moyen-Âge est chrétien sous prétexte qu'on est chrétien. Le Moyen-Âge est vraiment la fusion des trois monothéismes, et la Renaissance va hériter de cela. Et du coup, on se rend compte que, par exemple, la pensée juive aura une importance considérable dans la manière d'envisager les choses, notamment de les interpréter. Et il est très intéressant de voir que le système de la lecture talmudique, c'est-à-dire le fait que le texte de la Bible, en hébreu évidemment, et les lectures kabbalistiques, est un ensemble de correspondances, ne doit pas nous inciter à voir derrière le texte la vérité qui serait cachée derrière le texte, mais recombiner le texte pour se transformer soi-même et recréer une nouvelle, disons, une nouvelle individualité de soi en recomposant le texte. Donc il ne s'agit pas de retrouver ce qui est un vrai caché sous des symboles, mais justement, c'est pour ça que cette fable est très intéressante, c'est à force de remuer, eh bien, on va pouvoir produire de la vigne, même si on n'a pas trouvé de trésor au fond. Et alors, c'est la fable qu'il y a dans le Talmud de Babylone, des quatre sages qui rentrent dans le jardin, qui est Pardès, le jardin du sens, donc qui est le texte de la Bible, où il dit, alors je ne me rappelle plus bien de ce qu'il arrive à tous les sages. Le premier rentre et se rend compte que toutes les choses sont elles-mêmes et leur contraire, et il devient fou. Alors le second rentre et ressort, il n'y arrive rien. Alors le troisième, je ne me rappelle jamais ce qui lui arrive. Mais le plus important, c'est le quatrième, qui s'appelle Elisha ben Abouya, qui rentre, qui coupe tous les arbres du jardin et qui les replante. Et il sort et il devient Aer, l'autre. Et c'est lui qui est valorisé dans cette pratique interprétative. Du coup, il nous lègue des textes dans cette manière-là. C'est-à-dire ce que dit Dante, par exemple, il nous dit « J'ai mis des codes, je ne vous les donne pas, mais peu importe, dites, faites le chemin avec moi et essayez d'interpréter mon texte. » Et en interprétant mon texte, vous allez vous transformer et vous allez vous-même réaliser le voyage. Donc c'est ça qui est important, c'est pas tant d'essayer de trouver la vérité des symboles qu'ils ont voulu mettre, mais effectivement de s'exercer à l'art de l'interprétation pour réussir à se transformer soi-même, ce qui est une alchimie par le texte, comme il y a eu une alchimie par l'expérience aussi. Donc là, effectivement, peu importe que ce soit caché et qu'on découvre la vérité cachée, l'important c'est qu'on cherche.
S'il vous plaît, comment pourrait-on définir la magie de la Renaissance ? C'est-à-dire, comment peut-on distinguer si une action est magique ou non, une action donnée ?
Alors, on pourrait dire qu'une action est magique à partir du moment où les causes qui la produisent sont occultes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas connues, elles ne sont pas explicables dans le schéma de la science classique. C'est-à-dire que par les lois du mouvement, par exemple, aristotélicienne ou néo-aristotélicienne, on ne peut pas expliquer cette chose. Donc là, il y aura magie. D'où le fait que c'est souvent par hasard que se produisent les pratiques magiques.
Bon, j'ai des consignes pour parler. Voilà. Vous avez évoqué Campanella. Est-ce que c'est dans son utopie qu'il parle d'épuration de magie ? Parce que l'utopie, c'est vraiment tout à fait symbolique. Hein.
C'est dans Du sens des choses de la magie.
Pardon ?
C'est dans le texte Du sens des choses de la magie, oui.
Oui, c'est dans l'utopie.
Non, c'est un autre texte.
Pardon, oui. Du sens des armes, d'accord. Ah ben, merci. D'autre part, maintenant, on imprime toujours le petit Albert. Hein.
Le petit Albert.
Albert le Grand.
Oui. Enfin, le petit Albert. Albertus Magnus.
Oui, Albertus Magnus. Oui, Albert le Grand, mais il y a le petit Albert et Grand Albert.
Oui, on l'imprime. Enfin, il y a quand même. Moi, je suis toujours très déçu avec les œuvres d'Albert le Grand parce qu'il y a un corpus de 40 volumes et tout n'est pas encore édité en latin. Et on a édité très très peu, et les moins intéressants, je trouve, personnellement. Il y a des commentaires au De Anima qui sont d'une richesse incroyable. Alors on dirait, vous avez qu'à le faire, oui. Effectivement. Mais c'est dommage, oui, Albert le Grand, il manque énormément pour un auteur fondamental. C'est-à-dire que c'est le problème essentiellement des textes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alors, un peu moins à la Renaissance, parce qu'il y a eu beaucoup plus de travaux qui ont été faits dessus. Mais le Moyen-Âge est très peu édité, donc du coup, c'est très difficile... même de le travailler à l'université, parce que les étudiants ne faisant plus de latin, il n'y a plus du tout aucun accès au texte. On n'a pas de traduction française à leur proposer. Alors soit il faut tout traduire soi-même, mais c'est la bibliothèque du Vatican. Soit on fait ce qu'on a. Et c'est vrai que là, on a aussi un choix. Il y a aussi un choix qui a été fait dans les textes. C'est ça qui a été le plus dangereux. C'est-à-dire qu'on a choisi, par exemple, plus les textes qui allaient vers la science, qui montraient que le Moyen-Âge, ce n'était pas que de la sorcellerie et de la magie, en laissant un petit peu les textes de magie, etc. Par contre, ils ont été repris par des gens qui font plutôt du charlatanisme intellectuel, qui, eux, vont les éditer en les traduisant un peu n'importe comment. Donc, c'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est que dans l'ambiance universitaire, on a laissé un peu de côté de la magie qui n'était pas assez noble pour la philosophie, ou je ne sais, la théologie, etc. Et ceux qui sont chargés de ces études-là sont souvent... on n'a pas une pratique du texte très scientifique. Donc c'est un peu ça, là. Enfin, ce n'était pas une question, d'ailleurs, pardon. Mais,
Enfin, il y avait aussi, donc, dans des peuplades beaucoup plus lointaines, en Chine, un temps beaucoup plus ancien, donc vers déjà toute une symbolique qui est identique, je vais dire, les dragons et aussi l'importance des alchimistes en Chine, et où, donc, c'était aussi avec le mercure, et où, donc, ici, vous disiez que l'héritage provenait, donc, de Grèce et de... avec l'intermédiaire... Donc, les Européens, à cette époque-là, n'avaient pourtant pas encore de contact avec la Chine. Et la symbolique est la même. Donc, je veux dire, on pourrait peut-être penser plutôt comme une espèce de pensée qui serait universelle.
Alors en fait, non, parce que justement, il y avait des contacts. Il y a eu des contacts, mais oui, mais justement, c'est ça. En fait, ça c'est une. Alors c'est quelque chose qui est purement occidental dans la manière de penser qui fait qu'on ne les voit plus. On a considéré que la philosophie était grecque, que la pensée était grecque, que la science était grecque et que les Grecs avaient tout trouvé. que les Arabes avaient fait deux, trois petites modifications de détails, que les Chinois font de la pensée, mais ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas rationnel. Et donc, on a rejeté l'Orient de l'enseignement, on pourrait dire, classique en Occident. Aujourd'hui encore, on ne fait pas de philosophie chinoise, beaucoup, en Europe, à part de ci, de là, éventuellement, mais il y a une chaire de philosophie indienne en France. Voilà, il y aurait une rupture fondamentale. Ce qu'on oublie, c'est que les Grecs, bien c'est Alexandre le Grand qui va quand même très loin, c'est énormément de voyageurs, c'est ensuite il y a la route de la soie, enfin il y a les contacts sont incessants, c'est-à-dire que on se rend compte que Platon est en dialogue avec le chamanisme, même si ce n'est pas comme ça qu'on l'a envisagé ou étudié, c'est parce qu'on voulait absolument qu'il n'y ait aucun contact qu'on a amoindri les contacts. On a complètement laissé de côté la philosophie orientale. Alors ça, c'est... alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, donc je sais comment c'est en France. En France, ça n'existe pas. Voilà. Il y a de la pensée en Orient, mais ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas rationnel, c'est n'importe quoi, on ne l'étudie pas, ça ne vaut pas le coup, ça n'a aucun sens, personne ne fera une thèse en philosophie sur Confucius. C'est un choix. C'est un choix délibéré de la grandeur de l'Occident contre un Orient irrationnel, en quelque sorte. En réalité, il y a toujours eu une discussion. Il y a toujours eu une discussion, et même les empereurs chinois mettaient un point d'honneur, en quelque sorte, à faire venir des savants de toutes les religions, toutes les confessions, pour discuter à leur cour. Alors, d'ailleurs, c'est toujours très amusant, parce que c'est toujours le chrétien qui vient tout de suite avec l'injonction du pape pour demander à l'empereur de se convertir au christianisme. Et l'empereur lui dit que non, il veut écouter le dialogue de toutes les religions pour s'enrichir, parce que la Chine, justement, fait discuter les religions entre elles. Donc il retourne à Rome, il ne veut pas, on en renvoie un autre. Il faut le convertir. Et donc il y a eu toujours cette idée qu'il faut les soumettre. Mais ça, c'est, disons, c'est un autre problème qui est un problème politique qui vient du fait que l'Église chrétienne s'est construite comme une structure politique, ce qui n'est pas le cas des autres religions, du moins pendant très longtemps, même si maintenant, il y a d'autres, d'autres manières de penser, évidemment, théologie et politique, mais l'Église avait été justement une force politique avant d'être quelque chose de spirituel et de théorique. Et on se rend compte que toutes les querelles du Moyen-Âge sont avant tout des querelles politiques. Les principaux dangers des hérésies, c'est des dangers qui sont des dangers politiques. Et donc, du coup, tout a été fait, en quelque sorte, pour amener l'idée selon laquelle l'Occident s'est auto-engendré, en quelque sorte, à partir du monde grec. Les Arabes n'auraient rien fait. Vous savez que l'an dernier encore, on bataille contre des nouvelles interprétations très idéologiques, évidemment. L'idée selon laquelle les Arabes n'ont rien apporté, par exemple, à la culture du Moyen-Âge et de la Renaissance. Une vieille idée qu'on trouve chez Pierre Duhem, par exemple, selon laquelle les Arabes étaient prisonniers de l'imagination et ne pouvaient pas accéder à la raison, comme les peuples orientaux. C'est quelque chose qui est soutenu jusqu'à la moitié presque du XXe siècle, sans sourcil, en quelque sorte. C'est la pensée colonialiste française, bon, je parle pour les Français, évidemment, qui a considéré que donc la richesse était grecque, que quand les Arabes ont fait quelque chose qui n'est pas dans un texte grec, c'est qu'on a perdu le texte grec, mais qu'on le retrouvera un jour, pour montrer que c'était juste une traduction en arabe. Bon. Et ça, ça a été défendu encore l'an dernier dans un livre, en expliquant que, en gros, tout l'héritage grec est au Mont-Saint-Michel, et que c'est les moines chrétiens qui ont tout redécouvert par eux-mêmes, et que les Arabes n'y sont pour rien. Donc, en permanence, on refuse l'arrivée de l'Orient. Or, justement, et à Bagdad, les discussions entre, évidemment, le monde oriental et le monde occidental sont très importantes. Donc là, il y a une vraie étude à faire qui se situe cette fois-ci dans un complexe idéologique qui empêche des fois de véritablement poser ce qui se passe historiquement parce que, tout simplement, il y a énormément de tensions, disons, sentimentales autour de ces problèmes aussi. Mais du coup, effectivement, il y avait pour répondre à votre question. Je suis un peu long des fois dans la réponse des questions, je pars dans des digressions, mais il y avait un contact. Simplement, on n'a pas beaucoup travaillé sur le contact, sur l'influence de l'Orient sur l'Occident. Il y aurait d'ailleurs des choses extrêmement intéressantes à faire. Tous les gens qui veulent se lancer dans une recherche infinie de plusieurs années, peuvent aller là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire.